Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec vous Anna Maria Ospina de la rédaction hispanophone.
Buenas noches.
Vous nous parlerez des candidats de la 11e édition du prix RFI du reportage en espagnol, justement. Pour la rédaction en persan, Nasser et Temadi.
Chabri.
Et avec vous, un point sur l'enquête visant 8 Iraniens soupçonnés d'avoir projeté des attentats terroristes, cela contre l'ambassade d'Israël à Londres et la communauté juive installée en Grande-Bretagne. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr la désignation du nouveau pape. C'était hier, à cette même heure, au Vatican. La fumée blanche, puis le surnom du pape connu, à peine apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a fait savoir son attachement aux Péruviens. Il a passé plusieurs années à leur côté et il s'est donc adressé à eux en espagnol.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit le nouveau pape, Anna Maria?
Il commence par dire bonjour à tous. Il s'adresse là à tous les catholiques du monde entier, parlant en espagnol. Mais c'est premièrement bouleversé les Pérou principalement, car il a tenu à saluer sa diocèse. Il a été l'évêque de Chiclayo, c'est dans le nord du pays, depuis 2014. On l'écoute.
A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe.
Robert Prévost a passé près de la moitié de sa vie au Pérou. Sa première mission en tant que prêtre était dans le nord du pays, on a dit, au Chiclayo, dans les années 80. Après, il est retourné dans son pays, à Chicago, où il est né, en 1999. C'est là qu'il retourne et il revient à Chiclayo en 2014, où il est resté près de 10 ans. Il a été naturalisé péruvien en 2015 et c'est pour ça que le peuple péruvien fête aujourd'hui sa nomination comme successeur de l'Argentin Jorge Bergoglio. On écoute l'expression des joies des fidèles.
Yes, claro! Casi papa peruano!
Monseigneur, que nous a tocado el gran santo padre.
Tengo la esperanza que así sea.
Voilà, on entend donc la satisfaction de ses fidèles, Anna Maria. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a également réagi en parlant d'un événement historique.
Comme expression de profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa.
Aidez-nous à comprendre ce qu'elle dit.
Elle utilise des mots très proches de son peuple. Elle dit que sa sainteté qui a vécu, qui a servi sept pays pendant des années, il a partagé la vie du peuple avec humilité, amour et grande foi. Sa proximité avec les plus défavorisés a laissé une marque indélébile dans notre cœur. C'est ça ce qu'elle dit. Donc certes, le premier pape est assunien, mais aussi c'est le premier pape péruvien, au moins de par sa double nationalité et son cœur.
Alors ce nouveau pape est très apprécié au Pérou, hein, on le voit. Alors pourquoi? Pour son combat contre les agressions sexuelles dans l'Église catholique.
C'est grâce à lui qu'un archevêque, accusé par plusieurs victimes, a été banni de la vie religieuse. Prévost a dû prendre la décision d'écarter ou de demander la démission anticipée de José Antonio Eugeren. À l'époque, il était archevêque de Piura et de Tumbes, deux villes, Piura et Tumbes. Et c'est cette décision, évidemment signée à l'époque par les papes François, qui a porté les premiers coups sérieux à l'organisation sodalice au Pérou, la destitution de cet archevêque.
Alors précisément, quelles accusations avaient été portées contre le groupe religieux sodalicio?
Les dirigeants sont accusés de pédastrie, des agressions sexuelles et des violations systématiques des droits de l'homme à la rencontre de leurs membres, selon les propres aveux de la congrégation. C'est eux-mêmes qui ont fait l'investigation et qui ont participé à cette découverte. On dit que des membres de la direction ont abusé sexuellement des 19 mineurs et 10 adultes entre 1975 et 2002. L'un de ces dernières actions, le pape François a dissous les groupes religieux en 2025. Un an plus tôt, José Enrique Escardo, une des victimes, était arrivé à Rome pour parler avec François des abus commis dans la communauté. Il a aussi été reçu par les désormais Léo XIV. On l'écoute.
Je suis avec lui au Vatican.
cuando fui en enero de 24 a reunirme con el Papa Francisco, y él tiene toda la disposición de continuar con el trabajo. Estaba
Il dit nous comprendre.
Il dit que il était avec lui, c'est-à-dire avec aujourd'hui Léon XIV, qui est, c'était en 2024, et qu'il a dit qu'il était d'accord de continuer les travaux qu'il faisait déjà au Pérou sur la question des abus dans l'Église, avec les papes François évidemment, et aussi avec les survivants. On peut espérer donc que Prévost se remettra à nouveau à la place des victimes, ces mêmes victimes qui envisagent aujourd'hui de retourner au Vatican avec leurs revendications.
Alors, dans quel sens l'élection de ce nouveau pape peut impacter les opinions et les orientations politiques des Américains, en particulier les 53 millions catholiques qui vivent aux États-Unis? Cette élection peut-elle également influencer les approches et les politiques de l'administration Trump? Voilà les questions posées par la rédaction persane à Majid Mohammadi. C'est un chercheur, un écrivain iranien aux États-Unis à l'occasion de l'élection du nouveau pape. Écoutez-le.
من بر این باور هستم که انتخاب پاپ جدید انتخاب بسیار هوشمندانه ای بوده از سوی
ناصر تمدی que dit-il quelle est son expertise
d'après Majid Mohammadi l'élection de nouveau pape a été à bien des égards une élection intelligente voire très intelligente car elle contribue à diminuer la tension qui s'était accentuée sous le pape François entre l'église catholique et l'administration de Donald Trump. Elle contribue à régler également le conflit d'appartenance des catholiques américains à deux instances importantes, celle de l'Église et celle du gouvernement américain.
D'autres commentaires sur les visions, les positions de ce nouveau pape?
Oui, exactement. Par exemple, en matière de l'immigration, le pape Léon XIV, d'après notre interlocuteur, a une approche, pour ainsi dire, de gauche. Et en vertu de cette approche, il s'est ouvertement opposé comme le pape précédent, d'ailleurs, opposition de Donald Trump et de son vice-président Vance, mais en même temps, sur d'autres questions, d'après notre interlocuteur, comme par exemple l'interruption volontaire de grossesse ou la sexualité, et il est un conservateur conséquent, le nouveau pape, ce qui correspond, d'après lui, aussi aux dichotomies internes à l'Église catholique. Donc, en gros, il garde un certain équilibre au sein de l'Église catholique.
On le disait, il est américain, Anna Maria, ce nouveau pape. Quelle est la réaction aux États-Unis, sachant qu'il est originaire de Chicago, même si son père est français et sa mère italienne?
C'est ça qui nous a raconté notre correspondant à Washington, Cristobal Vázquez.
Donald Trump dijo que es un gran honor que el Papa sea de Estados Unidos y agregó, hablando con los medios de comunicación, que el Vaticano...
Il explique que Donald Trump s'est adressé des félicitations au nouveau pape dans un message sur son réseau Truth Social. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays, a-t-il écrit, se disant impatient de rencontrer les nouveaux chefs de l'Église catholique. Les vice-présidents aussi s'exprimaient également, des anciens présidents comme Joe Biden et Barack Obama.
Mais aujourd'hui, comment peuvent, on va dire, s'établir les relations entre le souverain pontife et Donald Trump?
Difficile à savoir, mais il faut déjà penser que Donald Trump, qui sera aux commandes jusqu'à janvier 2029, pense que ça peut être compliqué. Les proches de Trump ont déjà ouvert les hostilités face au nouveau pape, les qualifiant de « never Trumper gauchistes ». Léon XIV, alors cardinal, s'était montré critique envers la politique migratoire de Donald Trump, pour mentionner un des sujets. Et Donald Trump s'était aussi attiré des critiques en publiant sur son réseau social, quelques jours avant les conclaves, un portrait de lui-même se montrant vêtu de la tenue papale.
Et j'ajoute que Léon XIV a accordé sa première messe tout à l'heure, et à cette occasion, il a déploré le recul de la foi dans le monde.
20 heures à Paris,
22 heures.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Au Royaume-Uni viennent d'être prolongées les gardes à vue de 8 Iraniens soupçonnés d'avoir organisé des attentats terroristes, cela contre l'ambassade d'Israël à Londres et contre la communauté juive. La police les a arrêtés juste avant qu'ils ne passent à l'action. D'après des experts, les services iraniens ont eu tendance ces dernières années à faire appel aux réseaux locaux de criminels pour mener leur action à l'étranger. Cette fois, Nasser Etemadi de la rédaction persane, c'est différent.
Oui, c'est différent d'après l'avis des experts. Pourquoi ce changement? C'est une question que nous avons posée à Poti Nazarmer, membre de l'Institut de recherche des relations extérieures à Londres. Écoutons-le.
Quelle est son expertise?
D'après Azarmer, il est difficile à Suessad, en tout cas, de donner une réponse claire et distincte à la question qu'on vient de poser. Pour des raisons concrètes, les sanctions économiques, le démantèlement des réseaux liés à l'Iran dans la région, en particulier le principal majordome du gouvernement iranien, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, il est probable que le régime iranien n'ait plus de ressources suffisantes pour engager des mercenaires comme dans le passé. Peut-être aussi les réseaux criminels auxquels les services iraniens font appel ou faisaient appel dans le passé n'ont ont-ils plus envie d'exécuter les missions que le gouvernement iranien veut leur confier, étant donné les risques majeurs qu'elles peuvent comporter? Toujours d'après Azarmer, ce qui est certain, en tout cas, c'est que les arrestations récentes des agents iraniens au Royaume-Uni révèlent un certain changement dans la manière de faire des services iraniens à l'étranger.
Alors justement, est-ce que ce changement de méthode concerne seulement la Grande-Bretagne, Nasser?
Peu avant l'arrestation de 8 Iraniens, la police anglaise, comme l'explique notre expert, avait découvert un réseau semblable lié cette fois au Hezbollah libanais et procédé à l'arrestation de ses membres, ce qui a probablement mis la police britannique sur la piste des agents iraniens, voire facilité leur arrestation. Ces arrestations ont coïncidé avec celles survenues cette fois à Barcelone. Parmi d'autres membres du Hezbollah impliqués cette fois dans l'achat des pièces clandestines nécessaires pour fabriquer des drones, en entraînant d'autres arrestations cette fois en Allemagne, en France et encore en Grande-Bretagne. Ce qui pourrait dire qu'après la décapitation du Hezbollah, du Hamas et de Bachar Assad, c'est-à-dire le réseau iranien au Proche-Orient, autrement dit, après la dérive donc de la République islamique dans la région, le régime iranien est en train de reconstruire à la hâte ses réseaux tous azimuts, y compris en Europe, mais elle a rencontré, semble-t-il, sur son chemin la réaction coordonnée des pays européens.
Alors, quelle a été la réaction du gouvernement iranien de Téhéran après l'arrestation de ses ressortissants en Grande-Bretagne?
Après plusieurs jours de silence, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Reza Youssefi, a fini par accuser en guise de réaction la police et l'État britannique de violer les droits de l'homme et des normes juridiques internationales en arrêtant 8 agents iraniens sur la base, dit-il, des accusations infondées. Toujours est-il que les arrestations récentes en Angleterre interviennent après les nouvelles mesures légales prises par Londres pour renforcer spécifiquement la surveillance des agents iraniens sur le sol britannique. D'après les autorités anglaises, la police britannique a pu neutraliser les 3 dernières années plus de 20 complots terroristes émanant du gouvernement de Téhéran et sanctionné un réseau criminel lié au régime iranien en Suède en raison de l'organisation des actions terroristes contre les juifs européens. D'après le journal britannique, le Télégraphe, l'une des personnes arrêtées la semaine dernière à Londres et à Manchester est liée étroitement à un oligarque du régime de Téhéran.
Et cette personne, comme les autres, devront répondre de leurs actes devant la justice britannique. C'était Nasser Etemadi de la rédaction Persane de Radio France Internationale. Anna Maria Ospina, vous êtes, vous, de la rédaction en espagnol. Vous nous parlez maintenant de l'appel à candidature de la 11e édition du prix RFI du reportage en espagnol qui est désormais clos. Alors, quelles étaient tout d'abord les conditions à remplir pour les participants?
On va laisser Mauricio Latorre, chef du service Amérique latine, vous répondre.
Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años de edad que sean hispanohablantes.
Alors, que dit votre chef?
Latorre, oui, c'est mon chef, c'est le chef de notre rédaction. Il détaille que le prix est destiné aux étudiants et étudiantes hispanophones en journalisme âgés entre 18 et 30 ans, en cours de formation sur tous les continents américains. Ça inclut les Canada et les États-Unis, parce que là-bas, il y a beaucoup de programmes universitaires bilingues, espagnol ou anglais. Et pour se présenter, les candidats ont été sélectionnés par leur université, c'est-à-dire un seul candidat par l'université.
Alors, ça fait 11 ans que ce concours existe. Quel est son objectif?
Les prix RFI du reportage en espagnol, comme on l'appelle en français, el premio reportaje de RFI en espagnol, a pour objectif de découvrir et d'encourager les jeunes talents du continent américain, de leur permettre de bénéficier d'un stage de 4 semaines organisé par France Média Monde dans notre rédaction. L'idée est de donner la possibilité aux journalistes en devenir de se rendre à Paris tout frais payé, ça veut dire les billets d'avion, l'hôtel, la nourriture, les passes Navigo, pour réaliser un stage chez nous, comme je vous ai dit, de 4 semaines. Les gagnants ou la gagnante pourraient réaliser les reportages dont il ou elle aurait imaginé la synopsis.
Parce que les étudiants devaient envoyer le synopsis d'un reportage à réaliser en France lors de leur dépôt de candidature.
C'est ça, les synopsis d'un projet de reportage à réaliser pendant leur stage. Les gagnants ou la gagnante seront accompagnés par nous, par Mauricio Latorre, le chef, par moi et mes collègues, et pour que la personne puisse les réaliser de la meilleure des façons. Mais avant de s'imaginer à Paris, les étudiants doivent sortir pour chercher une bonne histoire proche de chez eux afin de réaliser un reportage de 13 minutes. Et c'est ces reportages locaux avec lesquels ils vont essayer de gagner ces prix. L'auteur du meilleur reportage élu par un jury sera le lauréat des gagnants.
Justement, ce jury qui en fait partie?
Le jury est composé des journalistes de RFI en espagnol et présidé, très important, par les directeurs de RFI, Jean-Marc Four. Ils vont se réunir fin mai pour désigner la meilleure contribution. Les gagnants ou gagnantes de cette année sera connu le 4 juin dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France, dont la France, dont France Média Monde fait partie, et à l'occasion de la rencontre des radios partenaires des RFI dans la région, et qui s'éteindra à Paris le mois prochain.
Donc on verra bien. Cela dit, ce concours a été organisé l'année dernière. Alors, on peut peut-être y revenir. Qui avait été élu lauréat?
En 2024, le prix a été attribué à une étudiante mexicaine. Elle s'appelle Mariana Hernández de l'Université Ibero-Américaine au Mexique. Elle a gagné donc la 10e édition du prix avec les reportages intitulés « Prendre soin des dynamos, les femmes s'engagent pour la protection de la planète ».
Un grupo de mujeres voluntarias que se dedican a hacer trabajos de conservación. CUPADI significa comuneras unidas por el amor a los dynamos.
Un travail qui plonge l'auditeur dans l'histoire des comuneras, c'était la voix de Mariana. Elle nous explique que ce que c'est les comuneras, que c'est un groupe de femmes qui s'occupent de façon bénévole du parc national des dynamos, que c'est un poumon de la capitale mexicaine. On écoute un autre extrait.
Son nuestras tierras, hay que conocerlas. Entonces ya venía yo caminar por aquí y fue...
C'est la voix d'une des personnages du reportage, elle s'appelle Estefania, et dès qu'elle a découvert la beauté des lieux, c'est un terrain qu'elle a hérité de par son grand-père, elle a rejoint l'association pour aider à sa conservation et promouvoir un tourisme éco-responsable.
Alors concernant Paris, quel a été le sujet du reportage choisi par Mariana?
Bon, à Paris, Mariana, elle a tourné un reportage sur la reconnaissance des diplômes étrangers. C'est très difficile, c'est un long parcours des combattants. Quand un étranger vient en France et doit faire passer des examens pour valider son diplôme, donc Mariana, elle a interviewé des diplômés d'Amérique latine qui viennent chercher du travail en France, mais qui n'ont pas pu obtenir l'équivalence de leur diplôme. On écoute Camila Rios, elle est la fondatrice de UNIR. C'est une fondation, une organisation dédiée à l'aide aux migrants pour l'homologation de leurs études.
Pero muchas veces las personas migrantes y los refugiados están forzados a hacer formaciones cortas para trabajar en cosas como construcción.
Que dit Camila Rios?
Elle explique que de nombreux diplômés étrangers doivent travailler dans les bâtiments, la garde d'enfants, la restauration, des emplois importants pour la société française, mais loin de leur niveau d'études. Mais sans diplôme valide, ils n'ont pas d'autre choix. En d'autres termes, s'ils veulent travailler dans leur domaine d'études, soit ils refont leur licence ici, ou l'autre schéma, c'est une reconversion professionnelle.
Et donc, le prix du reportage en espagnol sera remis, rappelez-nous, dans un peu moins d'un mois?
Oui, le 4 juin, il sera remis lors de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, dont France Média Monde est partenaire.
Ana Maria Ospina, de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur l'appli RFI et sur le site internet www.rfi.fr. Accent du Monde réalisé ce soir par Fabrice Violet.